Les samedis et dimanches sur Europe 1, 11h midi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. L'un des auteurs dont les romans à la fois populaires et savants marient sur fond de polar les sciences et le surnaturel, l'évolution des espèces et la spiritualité. Cet auteur, c'est Bernard Werber, que je suis absolument ravie d'accueillir, Bernard Werber qui vient de faire paraître chez Albin Michel, Demain les chats. Bonjour cher Bernard.
Bonjour.
Bernard Werber, est-ce que c'est pour mieux fuir la réalité qu'on devient auteur de science-fiction ?
Oui.
Comme ça c'est clair. Réglé.
Non, oui, non, je crois que toute personne qui crée des mondes n'est peut-être pas complètement satisfaite du monde dans lequel elle vit. Enfin, moi j'ai commencé à écrire des histoires à l'âge de 8 ans parce qu'à l'école c'était je me sentais pas bien du tout. Donc j'ai inventé les mondes imaginaires où je me sentais bien et je me suis aperçu que ça amusait mes collègues de classe et mes professeurs. Donc j'ai continué et voilà, maintenant j'ai beaucoup plus de 8 ans et je continue toujours et j'en reviens pas de la chance que
donc,
j'ai de gagner ma vie.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de 8 ans, la réalité, elle continue de vous ennuyer, elle vous agresse, elle vous angoisse, vous la trouvez en fait vidée de substance
romanesque. Non. La réalité, c'est la matière première. Après, il faut la présenter, il faut trouver des angles pour trouver du fantastique là où les gens voient quelque chose peut-être de morne ou de triste. Mais je suis très content de vivre sur cette planète à cette époque. Je suis pas du tout déçu.
Alors donc, vous ne trouvez pas que cette époque, justement, souffre d'une absence de spiritualité laïque ?
Je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de spiritualité, précisément parce qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire.
Et j'ai dit laïque. Pas... Hein.
Oui. Et que le travail, la famille ou la religion, ces systèmes qui existaient pour les générations précédentes, maintenant on a quelque chose de nouveau inventé. Quelque chose de très individuel, de très personnel. Pour chaque individu, c'est différent. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent dire « ma spiritualité est similaire à la tienne ». Mais par contre, il faut aider les gens à se retrouver. Je n'ai pas d'autres termes. Je crois que la spiritualité, ça consiste à se retrouver soi-même.
Alors Bernard Werber, est-ce que le métier d'écrivain tel que vous l'exercez, finalement, a des points communs avec le chamanisme ?
Alors, tel que je l'exerce, puisque vous avez mis cette expression, en tout cas, le point commun, c'est l'observation de la nature. Quand j'étais petit, vu qu'en effet, j'étais pas un très bon élève ni très sociable, je restais dans les forêts à observer les grenouilles, les têtards, les papillons. Et l'observation de la nature, c'est déjà une manière de se réconcilier avec la nature. Et pour moi, le chamanisme, c'est l'homme qui est l'ambassadeur des hommes auprès de la nature. Il y a un travail à faire de réconciliation. C'est un réconciliateur.
Mais pas seulement. Il y a une dimension surnaturelle. J'ai envie de dire un peu de magie ne saurait nuire.
Mais si vous restez une heure à observer une fourmi ou à observer une fourmilière au hasard, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous êtes dans un état bizarre. Et cet état bizarre, c'est tout simplement la magie de la nature. Mais même rester à marcher une heure en forêt en respirant profondément, ça fait déjà un début de quelque chose, une sorte de début de transe. Je crois que les premiers chamans, c'était juste des gens qui ont compris que l'observation de la nature était la clé de la spiritualité.
Pourquoi vous n'aimez pas trop qu'on vous présente comme un auteur de science-fiction ?
Parce qu'en France, la science-fiction est un genre qui a été tué dans les années 70 par l'arrivée un peu du nouveau roman. Et on a considéré qu'il ne fallait parler que du réel et que du vécu de l'auteur. Et en France, on a décidé que la science-fiction, c'est un truc des anglo-saxons, des américains. Donc, dès le moment où on est catalogué littérature de genre, on est rangé dans un petit coin dans les librairies et on passe pour de la littérature qui n'est pas sérieuse. Alors que, à mon avis, il est quand même temps de rappeler que Jules Verne était français, ouais, et que Barjavel était français, et que Pierre Boulle, l'auteur de La planète des singes, était français, et qu'on a une très bonne science-fiction française qui, malheureusement, n'est pas souvent visible.
Alors, si je dis que vous êtes un écrivain prophétique, ça vous contrarie ou vous acceptez le terme ?
Dans le mot science-fiction, il y a l'idée d'essayer de voir ce qui va arriver dans le futur. Alors après, des fois on trouve, des fois on trouve pas, mais en tout cas, on s'autorise à imaginer ce qui risque d'arriver dans les années, les siècles, voire les millénaires à venir. Et ça, c'est passionnant. Parce que, vous savez, la plupart des gens ne voient que sur une année ou sur 5 ans pour les politiciens. Mais nous, on peut aller voir sur 100 ans. Se dire, comment seront les ordinateurs dans 100 ans? Comment sera l'être humain dans 1000 ans? Tout ça, c'est des questions passionnantes et qui forcent à réfléchir et à faire réfléchir les lecteurs.
Alors, Bernard Werber, vous dites que dans vos livres, il y a 80% de fiction pour 20% de science. Mais l'imagination, elle a un temps d'avance ou un temps de retard sur la science?
Je dirais que beaucoup de ce qu'on appelle la science, donc les vérités actuelles, seront probablement démodées ou obsolètes dans les années à venir. Je ne fais pas, en fait, une séparation, ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique. Ma grande chance, en tant qu'écrivain, est de m'autoriser à Vous parlez de choses reconnues par la science, tout comme parler de choses imaginaires et les mélanger. Mais on est là pour poser des questions, pas pour apporter des réponses et poser des questions. C'est ça la spiritualité.
Bon, vous êtes un auteur qui a une formation de journaliste scientifique. Concrètement, depuis 30 ans que vous écrivez, Bernard Werber, quelles sont les intuitions que vous avez eues, classées dans vos récits donc comme de la science-fiction, qui aujourd'hui sont avérées?
Ben, la première, c'est qu'on peut parler avec les fourmis. Ça, c'était dans les fourmis en 91. Une machine qui permet de transformer les phéromones des fourmis en langage. Après, j'avais prévu 2 ans avant le World Trade Center, l'attentat du World Trade Center. Mais c'est un pur hasard. C'est parce que juste, je me disais, tiens, il suffit de mettre un avion dans un building.
Oui, là, les voyants pourraient en faire autant, n'est-ce pas? Sans être pour autant auteur de science-fiction.
Moi, je suis pas du tout dans la mystique. Vous parlez de spiritualité, mais je sépare les deux notions. J'essaie juste, quand j'écris, d'être en écoute du monde dans lequel je suis. Donc j'écoute les actualités, j'écoute des émissions, par exemple, d'Europe 1. Et à partir de là, j'essaie de faire des regroupements qui me semblent logiques. Mais au moment où je le fais, je me dis pas, ça y est, j'ai découvert le futur. Je me dis juste, tiens, il y a une voie dans laquelle il pourrait se passer des choses. Regardons ce qui se passerait si, par exemple, on pouvait communiquer avec les autres espèces. Si, par exemple, le terrorisme augmentait. Et j'explore ça, mais j'explore ça sans vouloir prouver quoi que ce soit, si ce n'est... Regardez, ce chemin mène par là.
Alors, je prends la balle au bon, puisque vous dites on peut communiquer, on pourra communiquer avec les espèces. Effectivement, vous écrivez dans ce livre que tout ce qui vit possède un esprit, tout ce qui possède un esprit communique, et tout ce qui communique peut dialoguer directement avec nous. D'où votre roman « Demain, les chats », c'est ça? Après avoir été l'empereur des fourmis.
L'avantage du chat sur les fourmis, c'est que... on a un animal qui vous offre un regard. Ce qui m'a toujours manqué quand je regardais les fourmis, c'est qu'elles ont, elles ont des sphères, mais on ne sait pas si elles vous regardent, si elles vous regardent pas. Alors qu'un chat, il vous offre un vrai regard. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sélectionné le regard de la couverture du livre. Je voulais un regard qui montre cette curiosité intelligente qu'a cet animal. Et l'autre chose intéressante qu'il y a d'un chat par rapport aux fourmis, par exemple, c'est que le chat, il va décider s'il vous aime ou s'il vous aime pas. Il va vous regarder, il va vous analyser et il va décider je viens ou je viens pas. C'est l'une des différences avec les chiens. Le chien aime presque naturellement tous les humains, surtout son maître. Alors que le chat, lui, il va faire un choix. Et se faire aimer par un chat, c'est pas si facile que ça. C'est ça qui m'intéressait dans le fait de parler de cet animal qui n'est pas facile à apprivoiser, qui est très indépendant et qui me semble très intelligent et qui me semble transporter une autre forme de pensée qui pourrait nous nourrir et nous aider.
C'est ce que l'on comprend quand on plonge dans la lecture de Demain les chats. Juste avant de faire une pause, Bernard Werber, pour écrire de façon aussi passionnante sur les chats, j'espère que vous en avez un à la maison.
Alors j'en avais un, mais après avoir écrit le livre, je me suis dit qu'il serait mieux dans un espace plus grand, dans un jardin, à pouvoir sauter sur des arbres, parce que l'appartement, ça m'a l'air quand même une prison. Donc je l'ai donné à une amie qui a un jardin, qui a d'autres chats, et du coup, je suis allé le revoir encore récemment, il peut s'amuser, il peut courir, il peut choper les petits mulots, il peut sortir dans les arbres, donc il m'a l'air de vivre un peu mieux.
Bon, on va retrouver tout de suite Bernard Werber. Je rappelle simplement aux auditeurs que bien sûr, ils peuvent réagir sur la page Facebook d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et puis sur le hashtag Europe 1. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il fut l'empereur des fourmis, il va devenir le dieu des chats. Je reçois Bernard Werber qui, déjà a vendu près de 30 millions de ses ouvrages tout autour de la planète, et dont le nouveau roman, paru chez Albin Michel, a pour titre « Demain les chats ». Alors Bernard Werber, très tôt, dès l'enfance, eh ben vous êtes distingué des autres garçons. Vous refusiez de jouer au foot, vous n'aimiez pas les bagarres dans la cour de récré, et vous passiez votre temps à lire et à écrire. D'ailleurs, vous n'aviez que 8 ans et demi quand vous avez rédigé votre première nouvelle intitulée « Les aventures d'une puce », une nouvelle qui racontait l'escalade d'un humain du point de vue d'une puce qui partait des pieds pour aller explorer son crâne. Donc tout était déjà en place pour celui qui 20 ans plus tard allait vendre 2,5 millions d'exemplaires de son best-seller planétaire « Les fourmis ». Ça vous a pris dès l'âge de 8 ans.
En fait, j'étais le binoclard solitaire à lunettes qui lit des bouquins dans un coin. Vous me dites plein de termes très agréables, mais non, j'étais surtout un enfant solitaire qui aperçut qu'il avait le regard intéressé des autres quand il racontait des histoires. Et comme vous disiez, j'étais pas très bon ni au sport, ni au football, ni dans toutes les activités normales d'un enfant. Donc c'est une résilience. Je crois que c'est une manière de pour survivre, pour pas devenir fou et pour être accepté. Je me suis mis à écrire. Et c'est pour ça que je suis toujours émerveillé de cette chance d'en avoir fait mon métier.
Alors, autre nouvelle, Bernard Werber, écrite à l'âge de 10 ans, c'était un récit qui avait pour titre « La chasse en brousse vue par le lion », récit qui s'achevait donc par la fin du lion en carpette dans le bureau du chasseur, donc beaucoup d'humour. Mais l'observation du monde animal par les humains et l'inverse, véritablement c'est une obsession.
Pas une obsession, mais je vais dire, en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est les changements de point de vue. Je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, tout le monde disait les mêmes choses, enfin, notamment à la télé, dans les journaux, et répétait les mêmes choses juste avec des intonations différentes. Je me suis dit, tiens, il faudrait placer la caméra dans un autre endroit. Soit dans l'infiniment petit, avec les fourmis, soit dans l'infiniment grand, avec nous les dieux et nos amis les humains. Mais bouger, donner plus de perspective. J'avais écrit aussi une nouvelle qui s'appelait L'ami silencieux, où c'était la vision d'un arbre sur tous les humains qui passaient, qui pour eux était une sorte de petite parasite qui, à peine né, mourait, parce que dans son temps, c'était un temps beaucoup plus long.
Et donc le regard extérieur est celui de l'humanité.
Un regard extérieur, un regard décalé, et l'offrir au lecteur pour que le lecteur comprenne que son monde n'est pas toujours par rapport à sa vision, il peut avoir d'autres visions. Et la vision d'un chat est vraiment une vision passionnante, évidemment.
Alors, vos parents n'étaient pas vétérinaires.
Non.
Vous n'avez pas grandi dans une ferme ou dans un cirque, puisque je parle bien évidemment par rapport à cet intérêt pour le monde animal, puisque vos parents tenaient un petit commerce de vêtements pour dames, rue de la Pomme. Je trouve ça très romanesque, à Toulouse.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui pouvait bien quand même expliquer ce besoin de vous téléporter comme ça en inventant sans cesse des histoires?
En fait, je crois que j'étais un gosse malheureux. C'est-à-dire, j'avais des parents formidables.
Vous avez osé avouer ça à vos parents?
Ah, mais je vais vous dire, plus je vieillis, chaque jour qui passe, ma vie s'améliore. Mais ma jeunesse, c'était quelque chose de très fermé parce que j'avais pas déployé mes ailes. Puis j'étais très sensible à tout ce qui se passait, c'est-à-dire tout m'intéressait, mais j'ai l'impression que mes pôles d'intérêt étaient exotiques par rapport à ceux des autres. C'est-à-dire que déjà très jeune, non seulement l'observation des animaux, mais l'observation des étoiles, ça je pouvais rester des heures à regarder le ciel. Et quand les autres enfants me regardaient, ils disaient « mais pourquoi tu es encore en train de regarder les étoiles ?» Je sentais bien que je passais pour un doudingue. Donc il fallait vite transformer ma différence en quelque chose d'acceptable pour l'entourage. Mais ça a mis beaucoup de temps et en fait c'est après 20 ans que j'ai pu être accepté professionnellement et socialement en tant que type qui regarde pendant une heure les étoiles, qui regarde les fourmis sans, au lieu de regarder la télé, au lieu d'écouter de la musique rock, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, au lieu de faire tout ce que font les autres.
Alors j'ai appris que votre maman était une pianiste talentueuse, donc j'imagine qu'il y avait un piano à la maison.
Oui.
Voilà.
J'étais forcé à apprendre le piano à 6 ans.
Et ça ne vous a pas plu?
Non, ça m'a donné envie d'aller vers la guitare. Donc j'ai fait 6 ans de piano forcé pour avoir après tout le reste du temps en guitare plaisir.
Mais alors, est-ce qu'il y avait des livres, beaucoup de livres à la maison?
Alors, il y a eu la découverte de Jules Verne qui m'a complètement transcendé parce que Jules Verne m'a apporté tout ce qui me manquait, à savoir des voyages, des perspectives, des décors, des personnages attachants. Donc au bout d'un moment, j'ai lu tous les Jules Verne quand j'étais jeune, ça m'a nourri. Et après, notamment L'île mystérieuse, je me suis aperçu qu'on peut avoir des instants d'extase par la lecture. C'est-à-dire pour beaucoup d'enfants, la lecture, on fait ça pour faire plaisir aux parents ou aux profs. Pour moi, c'était la récréation. C'est-à-dire plutôt que de manger un gâteau, je préfère lire.
C'était addictif.
Oui, mais il serait temps qu'on dise aux jeunes, attendez, la lecture, c'est un plaisir.
C'est la façon la plus magique de voyager.
Vous allez vous apercevoir que vous arrivez à fabriquer vous-même vos films dans votre tête et vous n'avez pas besoin d'aller au cinéma et les films que vous allez fabriquer vont être exactement adaptés à ce que vous préférez. Donc, moi, j'ai découvert la lecture très jeune, aussi parce que mon père me racontait des histoires avant de me coucher. Et je ne serais trop conseillé à tous les pères de gaver leurs enfants d'histoires pour leur donner ce goût-là. Parce que c'est le goût de l'évasion aussi.
Alors, Bernard Werber, je continue de dérouler le fil. En 77, donc à l'âge de 16 ans, vous avez créé un journal pour votre lycée, un journal qui vraiment ne ressemblait en rien à tous les autres journaux de lycée qui avaient existé auparavant, puisque c'était un journal olfactif dont les histoires et les bandes dessinées se lisaient avec toute une série de parfums inventés par vous sur une orgue à parfums dont on vous avait enseigné le fonctionnement, n'est-ce pas, avec un parfumeur toulousain. Voilà. Ça se présentait concrètement comment, cette histoire?
C'est un journal normal, si ce n'est qu'à l'intérieur, à côté des histoires, il y avait une bandelette qui était imbibée de parfum, d'un parfum que j'avais fabriqué. Et donc ce parfumeur qui s'appelle Berdouze à Toulouse, qui était connu pour le parfum de la violette, m'a formé très rapidement. Et il m'a offert une orgue. Et donc, j'écrivais une histoire. Je me disais, maintenant, je vais inventer l'odeur de l'histoire. Mais l'idée, c'est de pas faire des odeurs sucrées, mais de faire des odeurs qui pouvaient être des odeurs de mouillé, des odeurs de bois, des odeurs de verdure, de salade, des choses bizarres. Et le grand problème que ça me créait, c'est que j'utilisais des essences pures. Et si vous avez un peu d'essence pure sur le doigt, vous
ça ne part pas.
Ça part pas. Ça coûte très très cher, ça part pas.
Donc et vous étiez très parfumé en classe.
Oui, et puis quand je rentrais pour me coucher chez moi, vu que je faisais les expériences dans ma propre chambre, ma chambre sentait très très fort, plein d'odeurs mélangées, et je pouvais pas fuir ma propre pièce, donc je devais dormir.
Vous ne pouviez pas dormir, c'était en
tout temps. Je dormais voilà, au milieu d'odeurs très très puissantes.
Mais en plus, ça devait vous prendre un temps fou par rapport aux études. De vous fabriquer ça.
Alors j'ai eu la chance, je me suis retrouvé dans une école où on ne me demandait pas de beaucoup travailler parce que justement j'étais pas très bon élève, donc c'était un lycée toulousain qui était plutôt tourné vers l'économie, mais dans lequel c'était très tranquille. Donc c'est aussi parce que je m'ennuyais un peu dans ce lycée que j'ai créé ce journal, et le directeur du lycée a dit « Ah, vous voulez créer un journal ? Ça tombe bien, on a une imprimerie offset qu'on a achetée qui n'a jamais servi. » Donc j'étais formé comme imprimeur et parfumeur pour faire ce journal. Et là, j'ai commencé à faire des scénarios de bande dessinée avec un dessinateur qui s'appelait Fabrice Coget. Et on prenait ce plaisir à « je raconte une histoire » et lui, il met les images dessus.
Et alors, en même temps, c'est à cet âge-là, donc à 16 ans, Bernard Werber, que vous avez commencé à écrire le brouillon de votre futur best-seller « Les fourmis ». Ce livre, d'ailleurs, vous l'avez écrit et réécrit pendant à peu près une douzaine d'années. Mais vous êtes devenu écrivain. Vous auriez pu devenir entomologiste. Vous n'avez pas décidé de faire ce genre d'études.
Non. Heureusement que je suis devenu écrivain. Je crois que je ne suis pas très sérieux pour devenir un scientifique pur. Mon métier est vraiment de faire rêver les autres, pas de les informer sur des détails techniques ou des mots latins. L'écriture des fourmis m'a tout de suite appris que écrire une histoire sur une grande distance, c'est pas si simple à cause d'une chose qui est un art précis, qui est l'art qui m'intéresse, c'est l'art du suspense. L'art de faire tourner les pages, l'art de ne pas ennuyer le lecteur et que dès la première page, il a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Ça, j'ai mis 12 ans à le maîtriser. Ma principale difficulté est, il faut que j'en révèle un peu, mais pas trop, de telle manière que les gens soient tenus en haleine. Et il faut tout le temps les surprendre. C'est pour ça que sur 12 ans, j'ai écrit 100 fois le même roman en changeant toute l'intrigue jusqu'à avoir la formule parfaite qui me semblait fonctionner en suspense.
Qui a été vendue à 2,5 millions d'exemplaires tout autour de la planète. Alors on fait une pause et puis on retrouve tout de suite Bernard Werber parce que j'ai 1000 questions à lui poser. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Mon invité a une grille de lecture très singulière de notre univers puisque elle mêle les sciences au surnaturel, les mythologies à l'évolution des espèces et la philosophie à la biologie. C'est Bernard Werber qui publie chez Albin Michel « Demain, les chats ». Cher Bernard Werber, tous les écrivains n'ont pas fait d'études de criminologie. Vous, si. Très officiellement à l'Institut de criminologie de Toulouse. Mais vous n'écrivez pas de polar, vous écrivez des romans qui flirtent avec la science-fiction. Alors, pourquoi des études de criminologie ?
Tout simplement parce que j'avais commencé l'étude de droit et j'ai trouvé le droit extrêmement ennuyeux.
Oui.
Donc j'essayais de trouver quelque chose d'un peu plus sympathique autour du droit. Et la criminologie, c'était le lien avec le polar.
Et vous appelez ça sympathique ?
Oui, parce qu'on nous apprenait en fait à être des James Bond. On nous apprenait à crocheter des serrures, on nous apprenait à faire des poisons, on apprenait à nous suicider, à prendre des drogues.
Tout ça ?
La balistique.
À l'Institut de criminologie ?
Ouais. On apprenait le passage à l'acte, pourquoi certaines personnes tuaient leurs prochains, on a tué les grandes affaires criminelles. En fait, c'était passionnant. Le seul problème, c'est que ça débouchait sur aucun métier.
Si on entre dans la police, j'imagine que ça sert.
Ça donne des points pour être policier, ça donne des points pour être médecin légiste. Mais le diplôme pur de criminologie n'aboutit à aucun métier. Enfin, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'était dans les années 80. Et les profs nous disaient, j'espère que vous voulez être ou policier ou médecin, parce que sinon, ça ne vous servira à rien, notre diplôme.
Alors, ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'Institut de criminologie, j'imagine que ça doit être très différent de ce que vous y avez appris il y a à peu près 35 ans. Qu'est-ce qui vous sert encore parmi tout ce que vous avez cité là à l'instant ?
L'observation des détails. Je sais que quand j'écris, je visualise la scène, je la dessine, ouais. Et je regarde par où rentre et la lumière et les gens et où se trouvent les différents éléments. C'est l'observation en fait de la scène de crime comme un petit théâtre où il s'est passé quelque chose. Ça, j'ai appris à le faire en criminaux. De même, les trajectoires des armes, des balles. Et puis, le passage à l'acte. Le passage à l'acte, en fait, ça veut dire que toutes les sécurités ont sauté, ouais. Et que la personne considère que faire quelque chose d'immoral, c'est acceptable. Donc, tout ça, c'est de la psychologie, donc c'est du thème romanesque.
Il paraît que vous avez aussi assidûment fréquenté les assises à cette époque-là, Bernard Werber.
Alors, D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller dans les tribunaux voir comment se passe notre justice. Oui, c'est très surprenant. En fait, il y a une dimension humaine. On croit, avant d'y entrer, que tout est carré, c'est-à-dire il y a tel genre de délit qui aboutit à tel genre de peine. Je me rappelle d'une juge qui donnait des peines en fonction des vêtements. Plus ce type était bien habillé, plus il avait une peine légère. Donc en fait, il y a...
C'est le délit de sale gueule à l'envers.
Voilà. Mais bon, du coup, je ne saurais trop donner comme conseil à tout le monde de venir bien habillé dans les tribunaux. Mais c'est vrai que ça influait beaucoup.
C'est affolant.
Et il n'y a que en venant dans les tribunaux qu'on se rend compte de ça.
Alors, je continue de dérouler votre histoire. C'est à l'École supérieure de journalisme de Paris que vous avez décidé de poursuivre vos études. Ensuite, et 2 ans après être entré donc dans cette école, vous avez décroché le prix de la Fondation News du meilleur jeune reporter, qui vous a octroyé une bourse. Alors attention. Pour un reportage en Côte d'Ivoire, afin de suivre les fourmis magnans, nous y revoilà, les fourmis magnans qui dévorent tout sur leur passage. Là, carrément, c'est trop beau, parce que soudain, c'est comme si vous étiez devenu un personnage du livre que vous ne cessiez de réécrire depuis l'âge de 16 ans, non ?
Oui, j'étais surtout en contact avec un phénomène très étrange, c'est une rivière de fourmis, c'est-à-dire les fourmis magnans, c'est 80 millions de fourmis qui forment un ruisseau qui détruit tout sur son passage. Donc c'était la revanche de la nature. Ce qui m'a toujours gêné, c'est que l'homme, on arrive sur cette planète en disant « Tiens, cet arbre, je peux en faire des meubles. Cet animal, je peux en faire de la viande. » C'est-à-dire qu'on regarde tout comme de la matière première pour notre plaisir. Et là, tout d'un coup, il y avait de la nature qui est plus forte que l'homme. C'est-à-dire que j'ai vu ces fourmis magnans qui attaquaient des villages et tout le monde s'enfuit. Il n'y a pas de parade contre une rivière de fourmis magnans qui arrive.
C'est-à-dire qu'il ne reste rien de ce qui a été construit.
De tout ce qui est vivant. Ah. Ils mangent pas quand même le bois, mais ils mangent tous les insectes. Ils mangent, ça avance à peu près à 4 km/h. Donc, si la personne marche pas vite, elle peut se faire rattraper, mais ça va pas vous poursuivre, hein. C'est pas un lion. Mais c'est quand même une avancée, une sorte de coulée de lave. Voilà. Ça ressemble à une coulée de lave qui fond progressivement tous les êtres vivants. Et j'en étais recouvert parce que j'essayais de faire une photo de la reine et il y a qu'une seule reine pour cette masse de fourmis. Et ça a été une expérience où j'ai un peu risqué ma vie dans cette histoire et j'étais dégagé à temps d'un fossé dans lequel on essayait d'approcher de la reine. J'ai eu des photos de la reine. La reine fait la taille de mon pouce, c'est-à-dire c'est un très gros bestiau, la reine des fourmis magnans, et c'était très spectaculaire. Je voulais avoir la photo, donc du coup j'étais recouvert d'insectes.
Alors c'est la reine pour un océan de fourmis, voilà. sur 200 mètres carrés.
Vu que c'est une rivière, c'est tout en longueur. Je peux pas vous dire le nombre de mètres carrés,
mais c'est impressionnant.
C'est impressionnant, oui. Surtout on entend le bruit de tous les petits animaux qui fuient ou les oiseaux qui se font manger, qui hurlent, qui piaillent. Donc c'est Attila qui avance et ça s'arrête quand il fait ou trop chaud ou trop froid.
Mais vous avez joué les Indiana Jones en Afrique pour ça, c'est ça?
J'ai fait le métier de journaliste à fond, à savoir je vais sur le terrain, j'observe réellement la nature plutôt que de regarder ce qu'en disent des scientifiques. Et en plus, bon, je rentre en contact avec mon sujet. Je me rappelle quand je me suis enfoncé dans le fossé pour photographier la reine, le professeur Leroux, qui était le scientifique qui gérait l'ensemble des scientifiques, me dit, fais attention qu'elle ne rentre pas dans ton corps, donc fais gaffe à tes oreilles, fais gaffe à tes trous de nez et serre les fesses parce qu'elles vont essayer de rentrer dedans pour pouvoir te bouffer de l'intérieur. Et ça, c'est vrai que c'était une problématique un peu exotique pour quelqu'un qui vit normalement. Bon, on a plus peur d'être attaqué par des insectes comme ça.
Lorsque vous êtes rentré en France, à nouveau, vous avez refait une nouvelle mouture du fameux manuscrit des fourmis, c'est ça ?
Oui, mais il y avait toujours en fait, les fourmis, la documentation sur les fourmis, c'était le plus facile. La grande difficulté, c'était tenir en haleine et créer des scènes spectaculaires. Je me suis dit, il faut en profiter au maximum. Il faut que ça soit très spectaculaire. Il faut qu'il y ait des grandes batailles. Il faut qu'il y ait de l'orage, des vols d'insectes, des rencontres, tout le temps. Je visualisais ça vraiment comme un grand film avec des moyens énormes. Et le fait d'avoir vu ça en Afrique m'a vraiment aidé. Et d'ajouter de l'émotion. Comment faire passer de l'émotion à partir d'un insecte qui, a priori, semble inintéressant. Et c'était un vrai challenge.
Alors, Bernard Werber, le manuscrit de votre premier livre, Les fourmis, il vous a été renvoyé, paraît-il, 100 fois par les comités de lecture de toutes les maisons d'édition de France. Et même Albin Michel l'a refusé 3 fois avant de le signer. Je rappelle qu'on parle vraiment d'un best-seller planétaire qui s'est vendu à 2 500 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'on vous répondait? Les comités vous disaient que...
Ça ne correspond pas aux collections... Enfin, en général, il y a la lettre type, il y a écrit « Désolé, votre manuscrit ne correspond pas aux collections que nous avons. » Et c'est vrai, mon manuscrit ne correspondait à aucune collection. Et c'est le problème de toute personne qui fait quelque chose d'un peu nouveau. C'est que du coup, ça s'intègre nulle part. Et par chance, c'est finalement quand même Albin Michel qui a cru en moi Et d'ailleurs, je crois même qu'au moment où ils ont décidé de sortir les fourmis, au sein même d'Albin Michel, il y a un groupe d'auteurs qui a dit « Pourquoi on perd du temps à sortir un livre sur un sujet aussi intéressant que les fourmis ?» Vous dire que c'est quand même difficile de faire passer quelque chose de nouveau qui touchait peut-être trop de sujets.
Alors, avant de faire une pause, Bernard Werber, il paraît que lorsqu'enfin ce premier livre, Les fourmis, est sorti, Robert Sabatier, qui était membre du jury du prix Goncourt, vous a confié, très enthousiaste, que franchement, vous aviez toutes vos chances pour le Goncourt. Bon, hélas, la réalité était autre. Et votre éditeur, chez Albin Michel donc, vous a finalement déclaré, tu sais, soit tu plais au milieu littéraire parisien, soit tu plais au public. Donc vous faites partie des mal-aimés entre Marc Lévy et Guillaume Musso.
Non, non, c'est mal-aimé, d'abord c'est un choix précis. Mais non, Sabatier m'avait dit, ils ont été arrêtés par la couverture, parce que ta couverture fait un peu peur. Et il m'a dit, t'aurais mis une autre couverture, j'aurais pu le défendre un peu mieux. Donc je pense qu'on avait un problème de couverture. Et sinon, en effet, mon éditeur m'a dit, soit t'as le public, soit t'as les critiques, mais les deux sont incompatibles. Si tu plais au public, tu ne plairas pas aux critiques. Si tu plais aux critiques, tu ne plairas pas au public. Et dans ce cas, j'ai dit, dans ce cas, je choisis le public. Il m'a dit, donc prépare-toi à être ignoré ou dénigré par les critiques. Et j'ai dit, ça va, ça me semble le prix normal à payer pour toucher le grand public.
Allez, on s'interrompt un instant et on retrouve tout de suite Bernard Werber.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Bernard Werber, votre nouveau livre, Demain les chats, paru chez Albin Michel, et bien plus qu'un roman, puisque c'est à la fois une fable, un thriller et un récit de philosophie-fiction. Je sais que vous n'aimez pas trop le terme de science-fiction. Alors, l'histoire se déroule dans un avenir proche, dans un Paris en proie au terrorisme, à la guerre civile et à la peste. Et les deux héros de ce récit ne sont pas des humains, non, non, puisque ce sont des chats qui s'intéressent aux humains. Pourquoi cette fois-ci donc le regard du chat pour comprendre ce qu'est l'homme ?
D'abord, parce que c'était une réaction quand il y a eu le Bataclan, je me suis dit, il faut apporter un regard nouveau. Tout le monde est en train de répéter les mêmes choses. Et je me suis dit, tiens, un chat, en fait, qu'est-ce qu'il peut comprendre au terrorisme? Donc, mon chat, il n'est pas spécialement ni pro ni anti-humain. Il est juste dans un questionnement qui est, pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a des types qui arrivent dans une école et qui se mettent à tuer les enfants? Il essaie juste de se poser la question, mais sur en mode chat. Et c'est ce qui me semblait intéressant, c'est de parler autrement de ce qui nous arrive. Sinon, on est comme des lapins qui voient arriver une voiture qui va les écraser et on est fasciné par la peur. Et je crois qu'il faut sortir de la peur. Et pour sortir de la peur, il faut trouver un mode de réflexion différent. Et le chat me semble être un être intelligent qui comprend les choses différemment de nous, donc qui peut peut-être nous aider à comprendre ce qui nous arrive.
Alors vous dites un être intelligent. Effectivement, les chats connaissent tout de leur maître, l'inverse est faux. Et en exergue de ce livre, vous écrivez, j'adore cette formule, vous écrivez « Le chien pense, les hommes me nourrissent, me protègent, même, ah, ils doivent être des dieux. Le chat pense, les hommes me nourrissent, me protègent, même, je dois être leur dieu. » Je trouve ça formidable. C'est carrément ça la différence, n'est-ce pas?
Je crois que tout auditeur qui nous entend, qui a eu un chat, a compris que l'animal avait une très haute opinion de lui-même et qu'il considérait les humains d'une manière parfois condescendante. Mais le chat inspire le respect naturellement par la manière dont il se tient. Moi, quand j'avais mon chat, je le regardais, c'était un cours de yoga. Le matin, il s'étire, il va toujours dans l'endroit où il y a des bonnes ondes. Et puis, il y a quelque chose de très très fort dans le chat qui est une sorte de volonté de bienveillance à notre égard. Si vous êtes malade, vous allez voir que le chat vient vers vous, il va se poser pile à l'endroit où vous avez mal et va se mettre à ronronner. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans la tête qui motive ça. Et je dirais c'est une sorte d'intelligence bienveillante à l'égard de l'humain. C'est en ça que ça me faisait un personnage de roman fabuleux.
Bon, alors faire penser et parler les animaux comme le faisait La Fontaine.
Oui, exactement. Hein,
ça donne une grande liberté de ton et ça permet presque d'aborder les choses de façon philosophique. Puisque
oui,
quand même le cœur de ce récit, c'est noir, c'est le terrorisme, c'est la guerre civile. Or, tout ça passe par le cerveau et l'analyse d'un chat.
Alors d'abord, tous mes livres sont optimistes et quand j'écris, je me dis, ok, même si je vais promener les gens dans des mondes un peu difficiles, c'est pour qu'à la fin, ils aient encore plus de sourire, envie de vivre, envie de faire des choses extraordinaires. Je crois que la fonction de l'art est de rendre les gens heureux, pas de les déprimer. Par contre, pour faire cet effet de remontée, il fallait plonger ma chatte, mon héroïne Vastette, dans un monde humain très dur. Donc j'ai juste montré comment dans les années à venir ça pourrait se compliquer un peu et comment elle, avec sa spiritualité de chatte, elle pourrait malgré tout garder une forme de sérénité et puis aider les hommes. Vous savez, quand j'ai fait ce livre, il y a une information scientifique que je n'avais pas au moment où je l'ai écrit et qui m'est arrivée à mi-parcours. Ouais. C'est l'invention de la ronron-thérapie. Savoir que ma sœur, qui est dermato à Toulouse, m'a dit, mon voisin du dessous a inventé la ronron-thérapie, donc je l'ai rencontré. C'est un vétérinaire qui s'est aperçu que le ronronnement des chats était sur une gamme d'ondes qui faisait que, un, ça nous calmait et deux, ça nous permettait de ressouder nos blessures ou nos os cassés. Et ça, c'est une information scientifique vérifiée, à savoir que les chats ont la possibilité de nous soigner, de nous faire du bien, et qu'ils ont envie de ça. Le ronronnement ne sert à rien d'autre qu'à apaiser et calmer autour de soi. Et d'ailleurs, toute personne qui a un chat le sait, l'animal, c'est comme s'il prenait les mauvaises ondes et qu'il en restituait les bonnes.
Alors, effectivement, dans ce livre de Maléchat, Bernard Werber, ce sont donc deux félins, Bastet et Pythagore, je précise. Hein, Pythagore, c'est un ex-chat de laboratoire à qui on a greffé sur la tête une prise USB pour se connecter aux ordinateurs des humains et donc pouvoir communiquer avec eux. Bah, ces deux chats, ils interrogent en fait notre humanité et ils s'interrogent sur la violence de notre société. Mais en fait, c'est bel et bien votre angoisse, le fait que les humains disparaissent. Votre angoisse à vous, Bernard Werber.
Ah, alors d'abord, je n'ai pas vraiment d'angoisse, si ce n'est que je me dis que notre espèce est une espèce parmi les autres. Et il serait intelligent de se demander comment faire pour que nos enfants soient de plus en plus heureux. Donc déjà, pour que nos enfants puissent arriver sur une planète viable, et deux, qu'ils n'aient pas envie de s'entretuer. Ça, c'est un questionnement de base que doit avoir tout être humain. Après, je le fais partager cette idée. Ce que j'essaie d'offrir, c'est une vision dans le temps, dans le passé et le futur, qui fasse qu'on soit mieux centré et qu'on soit plus en harmonie. Qu'on renonce à cette idée de croissance, d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus de moyens, toujours plus d'enfants, toujours plus d'activités, pour se poser la question, comment être en harmonie avec notre planète, avec les autres, et avec même toutes les autres formes de vie animale et végétale même.
Alors, les Égyptiens vénéraient les chats. Oui. Au Moyen-Âge, on les brûlait pour sorcellerie. Ils sont aujourd'hui 800 millions, les chats, autour de la planète. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre?
Vous savez, les chats, ils perçoivent beaucoup plus d'informations que nous. Un, parce qu'ils captent plus de sons. Il suffit de vous mettre les mains près de vos oreilles en forme d'oreilles de chat. Vous verrez, vous captez plus de sons déjà, parce qu'ils sont orientables. Nous, on n'arrive pas à orienter les... Il y en a qui arrivent à faire bouger les oreilles, mais on n'arrive pas encore à les orienter. Donc, ils ont plus de sons. Ils ont plus d'images parce qu'ils arrivent à voir dans le noir, alors que nous, a priori, dans le noir, on n'y voit que dalle.
Oui, mais faut analyser tout ça.
Voilà. Et ils ont des moustaches qui leur permettent de percevoir toutes les vibrations. Donc, ils ont plus d'infos. Ayant plus d'infos, on peut imaginer que...
Ils ont une intelligence de l'instinct qui n'empêche pas la pensée. La pensée telle que nous, on la désigne.
Le mot instinct, c'est pas celui-là que je choisirais. Ils ont une intelligence à eux qui n'est pas la même que celle d'un chien ou que celle d'une chèvre. Ils ont une forme d'intelligence à eux qui a l'air complexe. Mais plongez votre regard dans le regard d'un chat, vous sentez un esprit, vous sentez un truc. On ne sait pas exactement ce qu'il pense, mais on sent qu'à l'intérieur,
il se passe
quelque
chose. Mais il n'y a pas dans le regard du chat tout ce que vous, vous y mettez en le regardant, non?
Je sais pas. Évidemment, on pourra jamais le vérifier. Il faudrait pouvoir dialoguer avec un chat et lui demander qu'est-ce qu'il pense. Mais pour l'instant, en effet, c'est le travail de l'écrivain, c'est imaginer quelle peut être cette pensée. Et pour moi, c'est une pensée en avance. Je crois que ça se peut que les chats aient pigé des choses que nous n'avons pas pigées encore.
Pour ça, il faut plonger dans Demain, les chats, qui vient de paraître chez Albin Michel. Allez, on retrouve tout de suite Bernard Werber.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Bernard Werber, pourquoi un homme comme vous qui aime tant les animaux et la nature vit-il en ville?
D'abord, je vis pas loin de la forêt.
Ah.
Et tous les après-midi, je vais marcher en forêt pour me rappeler tout simplement que je fais partie de cette nature et pour me rappeler ce que sont les arbres. C'est vrai que si on n'est que dans le ciment, le béton, le métal et le plastique, je crois qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va pas dans notre organisme. Je crois que si beaucoup de gens ont des problèmes de santé, c'est aussi parce qu'ils ont oublié de marcher sur la terre, directement sur la terre, pas sur le ciment. Et je me sens bien dans la nature et j'ai eu la chance d'apprendre à respirer en conscience, à dormir en conscience. Toutes ces choses-là qui ont l'air évidentes ne sont pas évidentes. Et je crois que c'est ce qu'on va apprendre aux futures générations dans les écoles. On leur apprendra à faire les choses en conscience, pas à le faire machinalement.
Il paraît que tous les matins au réveil, vous notez vos rêves.
Oui, parce que ça, c'est le petit cadeau que m'offre mon inconscient ou mon ange gardien. C'est une histoire complètement délirante. J'ai des fichiers informatiques dans lesquels je note tout
des par la date. Des fichiers de rêve.
Le rêve, ce qu'il y a, c'est que c'est un spectacle, c'est un court-métrage qui nous est offert tous les jours. Ça serait dommage de ne pas le mémoriser.
Même avec 160 000 fans sur Facebook, une vie d'écrivain, c'est une vie de solitude.
Pas tant que ça. D'abord parce que je travaille au café le matin de 8h à 12h30.
Pas chez vous ?
Non, surtout pas chez moi.
Pourquoi ? Surtout pas ?
Parce que je serais tenté d'aller manger, pour tout vous dire. Je sais pas comment font les autres écrivains, mais moi, dès que j'ai fini un chapitre, j'ai envie d'aller au réfrigérateur, me prendre un petit café, et le petit café me donne envie de prendre un petit gâteau avec, et si je restais à la maison, je serais obèse. Donc, voilà, c'est un truc technique. Aussi parce que il y a le risque d'être pantouflard, c'est-à-dire vu que je suis pas obligé d'aller au bureau, je pourrais très bien, au bout d'un moment, traîner en pyjama dans la maison et me mettre à écrire, ça serait la fin de tout.
Mais vous arrivez à vous concentrer dans un café, vous entendez les conversations alentour, vous n'êtes pas capté par d'autres centres d'intérêt?
Ben si, justement, c'est intéressant. D'abord, je vois des humains autour de moi, ils font des fois des trucs bizarres.
Des humains, dites-vous, comme si vous n'en faisiez pas partie.
Je vois mes congénères qui s'agitent autour de moi, qui font du bruit avec leur bouche et qui ont l'air de vivre des choses intenses, donc j'essaie de les comprendre. Oui, par moments, il m'arrive que je sois comme extérieur à mon espèce, en train de me dire, tiens, pourquoi ces gens sont comme ça? Et qu'est-ce que je peux raconter à propos de ce que je vois? Oui.
Alors, on va dire que c'est une vie de solitude concentrée, en tout cas pendant l'exercice de l'écriture, la vie d'écrivain. Mais quand vous partez donner des conférences, par exemple en Russie ou en Asie, eh bien, ça ressemble presque à une vie de popstar, votre vie. J'ai appris d'ailleurs qu'en Chine, Bernard Werber, on piratait vos livres. Alors, je savais que les Chinois étaient les rois de la contrefaçon, mais pirater des livres, là, quand même, on atteint des sommets, non ?
Je crois qu'ils piratent un peu tout, mais ça change. Non, il faut pas leur jeter la pierre. Il y a d'autres problèmes avec la Chine pire que ça.
Oui, mais ils l'ont fait.
Oui, mais il y a pire que ça. Il y a des fois ma traduction au Japon dans lequel ils m'ont mis des poésies de Rimbaud à l'intérieur de... Ils mettaient une page des fourmis, une page de Rimbaud, une page des fourmis, une page de Rimbaud, sans signaler que ce n'était pas le même texte ni le même auteur. Donc, il y a des curiosités comme ça plus étranges que pirater.
Et dans quel but faisait-il ça?
Alors, c'est le traducteur qui s'est dit, tiens, vu que le livre risque d'être un best-seller, j'en profite pour faire découvrir Rimbaud. il me l'a dit comme ça après. J'ai pas osé lui dire qu'est-ce que les lecteurs japonais peuvent comprendre. Bon, après, il y a une version nettoyée de Rimbaud qui est venue parasiter mon livre. Je ne sais pas, c'est une curiosité.
Vous savez que, voilà, c'est de la science-fiction, pour le coup, ça.
Mais c'est l'avantage. J'ai la chance, en effet, d'être connu à l'international. C'est que chaque fois, je voyage, je découvre des nouveaux pays, des nouvelles mentalités. D'ailleurs, par exemple, en Corée du Sud, je suis présenté comme un livre de poésie. En Russie, plutôt comme un livre de philosophie. Dans les pays slaves, comme des livres de fantastique horreur. Et au Japon, comme un livre de littérature classique. Donc, selon l'étiquette et selon le choix de l'éditeur, en fait, ils sont sur des registres complètement différents.
Bon, la bonne étiquette, en fait, il n'y en a pas une, c'est le mélange de tout ça.
Oui, ça m'amuse d'être transgenre.
Transgenre. Voilà, un transgenre littéraire.
Et d'être en même temps un peu partout, parce que l'important, c'est d'avoir une bonne histoire et d'avoir un héros qui donne envie de s'intéresser à ce qui va lui arriver et une fin surprenante. Au final, on est des artisans, on est des horlogers et ce qu'on a envie, c'est de faire l'horlogerie la plus efficace possible qui fasse que lorsque les gens commencent à lire la première page, ils soient aspirés et qu'ils puissent pas lâcher le livre. Et chaque jour qui passe, j'améliore cet art parce que ça ressemble à l'hypnose, en fait. C'est comme si on disait aux gens, préparez-vous à vivre quelque chose d'intense, je vous propose ce personnage. Essayez d'imaginer ce qu'il ressent et on va vivre ensemble ces aventures.
Il est vraiment question d'onde en ce moment, hein, parce que à ce micro, le week-end dernier, je recevais Mesmer, hypnotiseur planétairement connu.
Et c'est la même chose, on raconte des histoires. Il n'y a rien de magique là-dedans, ni dans l'hypnose, ni dans le roman. Si ce n'est, on propose aux gens d'utiliser leur propre imaginaire pour qu'ils s'envoient des images dans la tête qui leur fassent vivre des choses intenses.
Alors, Bernard Werber, si on pousse la prospective encore au-delà du récit de Demain les chats qui vient de paraître chez Albin Michel, quel est votre scénario pour l'avenir de l'humanité ?
Moi, je pense que ça va être de mieux en mieux, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont proposer des choses nouvelles. Par contre, il faut créer un système qui permette aux gens qui proposent de nouvelles idées qu'ils puissent aller très vite pour qu'elles se diffusent. Or, souvent, les systèmes, dès qu'ils sont construits, ils se bloquent, ils se crispent pour établir des gens au pouvoir qui sont sur leur trône et qui tirent la mitraillette sur tous ceux qui essaient de monter à leur place. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui rêvent de l'avenir pour que notre avenir soit meilleur.
Bon, elle mérite d'être sauvée, l'humanité.
Moi, non. Je suis humain, je suis pas neutre. Je trouve que ce qu'on a accompli est formidable. Je vais même vous dire un truc qui peut paraître très très bizarre. Malgré toutes les trucs étranges qu'on entend aux actualités, je crois qu'on vit la meilleure période de toute l'histoire de l'humanité parce que on a la médecine, on a une espérance de vie plus allongée et on a les informations. Il y a 50 ans, on ne savait pas ce qui se passait dans les autres pays. On est la première génération à avoir accès à toutes les infos et du coup,
mais
on fait les choix.
Il faut faire quelque chose de positif de ce savoir.
Mais justement, c'est pour ça qu'il faut trouver, par exemple, pour moi, le roman, c'est un moyen d'informer les gens pour qu'ils prennent mieux conscience des choix qu'on a actuellement. Mais on a un pouvoir extraordinaire et tout ce que nous allons choisir maintenant va guider le monde dans une direction ou une autre. Maintenant, il faut que ceux qui ont envie que ça aille bien donnent des outils aux autres pour avancer.
Vous avez un chien à la maison?
Non. Non.
Bah, il va falloir en acheter un avant d'écrire le prochain roman, Bernard Werber.
Mais les chiens offrent de l'amour. C'est vrai. Les chats offrent de l'amour conditionnel. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des chiens et je vois ce qui se passe avec leurs chiens. Ils vivent un truc intense. Mais ce qui se passe avec le chat me semble malgré tout plus intéressant parce qu'il y a un challenge.
Et voilà. C'est bien pour ça que vous venez de faire paraître chez Albin Michel Demain, les chats. Nouveau best-seller de Bernard Werber. J'étais absolument ravie de me balader ainsi avec vous ce matin. Je vous dis à très très bientôt.
Merci à vous.
Ah, je vois toute l'équipe d'Adam Manoff qui s'impatiente pour l'émission. Ça pique, mais c'est bon. Allez, on va tout de suite la retrouver.